Merci beaucoup pour ces différentes présentations. Donc, avant d'en venir de façon séparée donc à chacune des communications, je vais formuler quelques remarques générales qui me conduiront à vous poser aussi quelques questions d'ordre général. Donc, vos recherches portent sur différents univers économiques, différentes populations socialisées à des types de conduites économiques, comme recommande de le faire Pierre Bourdieu dans le cours Anthropologie économique. Il me semble que vous réintégrez les conduites économiques dans l'univers des conduites humaines. Par ailleurs, vous ne négligez pas que l'économie structure l'ensemble de l'ordre social et partant dans l'ensemble des structures mentales. Donc vous travaillez sur les enfants, les hommes dirigeants sportifs ou les propriétaires immobiliers. Vous articulez dans la réflexion examen de la fabrication individuelle des dispositions économiques et examen des univers économiques des individus. Vos textes ont aussi, me semble, en commun de réfléchir à la place de la famille contemporaine dans les socialisations économiques, c'est-à-dire dans la construction d'une part des dispositions économiques individuelles, le rapport à l'argent, le rapport au domaine associatif, le rapport à la pierre, et dans la construction des univers économiques, donc la famille consommatrice et cible du secteur marchand et non marchand, des banques et des organismes de crédit, le domaine sportif hésitant entre adhésion et résistance aux forces de l'argent, le marché de l'immobilier. Vous avez également en commun, je crois, de travailler sur la famille, sur le temps, les territoires et l'argent de la famille, sur les préceptes éducatifs et les principes moraux qui la déterminent à l'heure de la famille individualiste, hein, pour parler comme François de Saint-Gly. Donc vos textes examinent la famille où on peut s'organiser un travail de refoulement, de dénégation de l'économique pour l'économique, mais où peut être aussi en action un travail explicite d'adhésion au calcul. Donc ces observations amènent à une première question générale, hein. Si vous n'employez pas la notion de socialisation économique et peu la notion de dispositions économiques, ce qui pose peut-être la question de l'existence ou de l'inexistence de dispositions économiques. Vous employez en revanche assez souvent la notion de disposition, mais sans véritablement la définir. On peut du coup avoir parfois, en vous lisant, le sentiment qu'il s'agit d'un synonyme de compétence ou de capacité. Il serait intéressant, je trouve, hein, que vous apportiez quelques précisions, si c'est possible, là-dessus. Donc j'ai une deuxième et dernière question générale. Dans les réflexions que vous présentez, la religion, les croyances et les pratiques religieuses, notamment possibles en refuge contre l'économie, d'après Pierre Bourdieu, ne sont pas explicitées. Donc je voulais vous demander si vous avez des éléments là-dessus, hein, pourquoi. Donc j'en viens maintenant à vos constructions respectives. Donc tout d'abord la présentation de Martine. Donc à 5 ans, comme vous le soulignez, les enfants peuvent voir leurs parents manipuler de l'argent, en parler à voix haute ou à voix basse. Hein. Les enfants peuvent aussi manipuler de l'argent, avoir une tirelire, la remplir, compter les sous, hein, qu'il y a dedans, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc vos analyses portent sur l'argent et son intervention dans les socialisations. Même si à 5 ans, la socialisation économique opère aussi dans la dénégation ou la dissimulation des questions d'argent, notamment quand les parents en ont peu et que cela pose problème, vous soulignez que les enfants, de façon plus ou moins explicite, apprennent à voir, à savoir ce que la vie coûte, notamment à leurs parents en tant que locataires, propriétaires. Ils apprennent aussi ce qu'ils coûtent en loisirs, en inscriptions diverses, en sport, au sport ou à la musique, à l'école, ce qu'ils rapportent aussi peut-être en allocation, en réduction diverses. D'ailleurs, le texte amène à la question suivante, je trouve. Avez-vous des éléments sur les effets du nombre dans la construction de ce rapport à l'argent? Donc, quand je dis nombre, je pense aux familles nombreuses ou pas nombreuses, aux fratries ou aux enfants uniques. Est-ce que vous avez aussi des éléments sur les effets de la situation des parents? Est-ce qu'on voit des variations entre les parents qui sont en couple, par exemple, et les parents qui vivent seuls avec leurs enfants ou leurs enfants? Donc à 5 ans, la construction du rapport à l'argent a pour théâtre central la sphère familiale. Étant donné que les parents appartiennent à une classe sociale, vous montrez que cette construction elle est différente d'un lieu à l'autre de l'espace social. Donc ça m'amène à une autre question. Au-delà de ces disparités, avez-vous des éléments, s'ils existent, sur les traits communs de ce rapport à l'argent dans les différentes classes sociales et fractions de classes sociales? Donc le territoire et son atmosphère économique est je trouve, dans le texte, relativement absent. Donc les sphères domestiques, mais aussi les espaces publics, où il peut y avoir ou ne pas y avoir de magasins, de mendiants assis au sol. Tout à l'heure, vous parliez d'un clochard, hein, donc des mendiants assis à la hauteur d'enfants, avec des bébés parfois. Pensez-vous qu'une attention plus grande pour le territoire, un autre stade de l'enquête, hein, si ça n'est pas déjà fait, pourrait servir à la compréhension de ces socialisations? Alors, je vais m'arrêter quelques instants sur vos enfants de riches. Donc, en lisant ce passage, je pensais à Emmanuel Macron, 2015, qui disait « Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires ». Donc, j'ai pensé à cette déclaration en vous lisant. Donc, avez-vous donc trouvé des enfants, vous avez peut-être trouvé des enfants qui permettent de voir les espoirs du président se concrétiser. Qu'en est-il des enfants de ses parents riches? Sont-ils partants à 5 ans pour faire pareil ou même mieux que leurs parents? Ici, on a du discours, hein, vous dites que vous travaillez par entretien, donc des principes que les parents disent tenir et mettre en œuvre. Ces principes, ils ont l'air de fonctionner, d'être efficaces. Donc, est-ce qu'il y a des contre-exemples, des épargnants ou bien des riches, hein, qui font de leurs enfants des insouciants économiques, des dépensiers? Est-ce qu'il y a des ratés de socialisation, donc des enfants de riches qui veulent devenir pauvres ou pas riches? Ou alors, à 5 ans, on ne peut pas aller à l'encontre de ces principes, on y adhère, on les intériorise. Alors, il y avait, je crois, à un moment donné, vous parlez de parents qui payent des tours de jukebox à leurs enfants. Est-ce que vous pouvez... Enfin, voilà. Si vous pouvez nous expliquer pourquoi jukebox dans le texte. Voilà, mais c'est vraiment... Pourquoi le mot jukebox? Ouais. Non, mais c'est vraiment du détail, c'est vraiment pour déconner un peu, mais voilà. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait encore des jukebox. Alors, le texte, quelques éléments sur le texte de Valérie. Votre texte nous permet de réfléchir à la question de la redevabilité. Donc le texte que vous avez que vous m'avez transmis, il est assez différent de ce que vous avez présenté là, mais je vais essayer quand même de m'ajuster un peu surtout à ce que vous avez dit. Donc les choses se passent sur ce terrain comme si la redevabilité, la reconnaissance de dette était indéfectible. Donc cette résistance, elle apparaît notamment liée à la, entre guillemets, à la beauté des dons, des choses reçues. Donc dans les années 80, la fratrie B, Youssef, Farid et l'autre frère, lorsqu'ils sont sollicités par les dirigeants sportifs, ils n'ont pas le sentiment d'être achetés, instrumentalisés, ils se sentent valorisés, élus. Une chance leur est offerte. Donc les univers économiques d'origine de ces enquêtés sont ajustés à l'engagement comme dirigeant sportif dans les années 2000, dans un contexte de transformation des mondes du sport amateur, ou du monde du sport amateur, celui-ci sous sponsorat ou mécénat, il accueille des salariés, ils se professionnalisent, tout en s'efforçant de maintenir les valeurs du bénévolat sportif. Donc vous réfléchissez à la fabrication de la reconnaissance de dette, et en particulier à la manière dont le territoire, dont la couleur politique de ses gestionnaires et dont le mode d'encadrement de la jeunesse que celle-ci favorise, fait converger des personnes aux caractéristiques parfois différenciées vers des engagements relativement similaires. Donc j'ai une première question. Pourquoi Youssef est-il moins flambeur que ses coéquipiers? Pourquoi a-t-il cette compétence d'économe qui lui sert dans son activité de dirigeant sportif? Donc il n'est pas le seul footballeur des classes populaires et issu d'une famille nombreuse pauvre dans ce club. Du coup, sa socialisation sportive dans la municipalité, gérée par les communistes, est-elle la clé principale pour comprendre de sa manière de travailler avec l'argent ou contre l'argent? Alors, autre question, que révèle l'adhésion au sponsorat de ces hommes dont la socialisation juvénile a opéré dans des quartiers populaires administrés par des communistes? Sur ce plan, la solidarité est-elle parfaite entre les frères? Plus généralement, comment les choses se passent entre eux, alors que les uns administrent tandis que les autres sont sur le terrain? Donc cette idée avancée, notamment de faire du sponsorat pour alléger les charges de la ville, n'est-elle pas une facilité permettant de se dédouaner, de se défendre, de participer à la vente du sport associatif aux forces de l'argent? Donc font-ils aussi appel à des mécènes non sponsors? Plus généralement, est-ce que le contact avec les entrepreneurs fait partie de leur quotidien? Donc j'avais une question notamment liée au personnage du président dont vous n'avez pas parlé. C'est une question sur la manière de rembourser liée à la position relative de subalterne de ses frères dans l'institution. Donc dans la hiérarchie, au-dessus d'eux, il y a Patrick, donc le président, qui a un bac plus 5, qui a été cadre, et donc qui est moins dépendant que les frères B à l'institution. Donc du coup, on peut supposer que cette relation hiérarchique travaille la reconnaissance de dette et de remboursement. Donc auprès du président, il y a un dominant capable de faire sa vie en dehors de ce territoire et en dehors de cette institution sportive. chez les frères, ces frères sont en position de dominer, forcés de demeurer là et de faire de leur passion juvénile pour le football leur métier. Donc ils ont un discours sur le sentiment de redevabilité, mais n'ont-ils pas le choix? Est-ce qu'ils ont un autre choix? Enfin, est-ce qu'ils ne sont pas obligés finalement d'insister sur cela, de dire ça? Donc toute leur vie dépend de ce club, leur survie économique, leur survie sociale. N'ont-ils pas eu, n'ont-ils pas d'autres opportunités? Leur capital social local et leurs compétences sportives, associatives sont-ils leurs seules ressources? Vous dites peu, notamment sur leurs capitaux scolaires. Voilà. Enfin, au-delà du discours, au-delà de l'implication dans le club, cette nécessité de rendre la monnaie, comment elle se traduit, voilà, concrètement dans la pratique de l'espace local? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quel contact ont-ils avec les élus, les habitants, les commerçants? Voilà, quelques éléments sur le texte de Margot et de Julie. Donc votre recherche permet de combler un manque en matière de connaissances sur les pratiques immobilières, donc notamment les investissements des classes populaires et des classes moyennes peu diplômées dans l'immobilier locatif. Donc vous enquêtez, il me semble, dans une de ces régions où la norme dominante est d'être propriétaire, où il y a beaucoup plus de propriétaires que de locataires. Donc être simplement propriétaire, si on peut dire ça comme ça, n'est pas suffisant pour se distinguer, pour grandir socialement. Donc vous restituez les dynamiques au principe de ces investissements. Dans la présentation, il est question de l'aspiration à l'autonomie économique favorisée par des situations de pauvreté et de précarité. Donc on peut faire l'hypothèse que la plupart des pauvres aspirent à l'autonomie économique. Donc eux, et ils réussissent en grande partie grâce à ces investissements. Donc, mais vous ne donnez pas toutes les réponses à cela. Vous en donnez, mais voilà. Votre texte montre notamment que l'étude de la socialisation enfantine et juvénile fournit des éclairages à cette question. Donc, ce sont les personnes qui ont bénéficié de soutien, qui ont cru en la croyance des autres en eux-mêmes. Mais pourquoi eux et pas d'autres? Vous voyez, pourquoi sur eux ça marche? Donc vos enquêtés, ils peuvent mobiliser un capital social local, s'acculturer aux normes de la bourgeoisie locale, être en position d'apprendre à savoir comment, où et à quel moment acheter et revendre. Leur esprit d'entreprise, vous le montrez, il est lié notamment au fait d'avoir ou d'avoir eu une entreprise, ou d'avoir eu des parents qui ont été, à un moment donné, parfois entrepreneurs. Donc ces enquêtés, grâce à l'immobilier, ils apparaissent s'inventer une autre vie. Ou apparaissent s'offrir une vie à côté, trouver un vecteur important d'épanouissement, notamment en devenant patron, sans les inconvénients propres à la gestion d'une vraie entreprise, peut-être où il y aurait des salariés. Donc vous mettez au jour les compétences techniques, manuelles, de planification, mais vous dites peu sur la mobilisation éventuelle de main-d'œuvre, je sais pas, des voisins, des amis, des artisans. Donc est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Vous dites peu aussi sur l'idéologie, sur le rapport aux politiques. Spontanément, on se dit qu'ils sont de droite, donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez aussi des éléments là-dessus? On se demande par ailleurs ce qu'ils font des dividendes économiques et symboliques de ces investissements. Est-ce qu'ils ont quel type de vie ils ont à côté grâce à je sais pas à ce profit? Est-ce qu'ils sont dans l'ostentation ou bien plutôt dans la sobriété? Voilà. Autre question, quels effets ces investissements ont sur eux et sur leur entourage? Est-ce qu'ils suscitent des aspirations, des vocations chez leurs enfants, je sais pas, chez leurs nièces et leurs neveux? Voilà, je pense à leur force socialisatrice, quoi, à la limite. Donc, peut-être un dernier élément, non, deux derniers éléments. Quand on a 30 appartements en location, est-ce qu'on fait encore partie des classes moyennes? Voilà. Vous enquêtez, là, pour le moment, vous avez bien souligné, vous avez raison, c'est une enquête en cours, quoi, qui débute. Vous semblez rencontrer essentiellement des personnes qui n'ont pas de doute, qui sont confiantes en leur chance en général, donc pas beaucoup de personnes qui ont connu des échecs. Donc on peut comprendre qu'ils soient enclins à répondre favorablement à vos demandes d'entretien, parce que ça marche, quoi. Donc voilà, est-ce que vous avez rencontré ou est-ce que vous allez essayer de trouver des bailleurs qui se sont plantés, quoi. Voilà. Voilà.
Merci. Merci pour ces questions. Je vais y répondre. Je prends combien de temps? 5 minutes 10 5 Ok. Ok, ça va être rapide du coup. J'y réponds. Il y a trois autres personnes membres de l'équipe qui sont dans la salle. Il y a Fanny, il y a Gaël et il y a Joël qui ont aussi participé à l'enquête. Donc si vous voulez compléter, allez-y, parce que je vais improviser les réponses en grande partie. Est-ce qu'il y a un effet du nombre, de la taille de la fratrie? On ne l'a pas regardé, mais a priori non, parce qu'on a des familles de taille à peu près semblable. En revanche, de manière très claire, il y a un effet, si je peux parler comme ça, du rang de naissance dans la fratrie. En particulier dans ce que j'ai décrit sur le, je vais appeler ça l'éducation à l'argent, parce que c'est vraiment ça dans les familles de classe moyenne du pôle culturel. On incite explicitement les enfants à mettre, enfin, à utiliser leur argent, etc. On leur donne de l'argent de poche, etc. Ça, c'est vraiment particulièrement marqué pour les enfants de l'enquête qui ont 5 ans et qui sont des cadets et qui en fait bénéficient d'une socialisation qui est faite d'abord sur leurs aînés qui ont parfois juste 2 ou 3 ans de plus qu'eux. Et du coup, alors, en fait, on donne de l'argent de poche à l'aîné parce qu'il est en CE1, il commence à arriver au moment où il peut compter, etc. On lui donne de l'argent de poche. Et du coup, on en donne au cadet, même s'il ne sait pas compter. Mais du coup, il a quand même de l'argent de poche. Et même chose sur les conseils de dépenses d'achat, les conseils de dépenses. Là aussi, c'est très souvent l'enfant de 5 ans en bénéficie parce qu'il est le cadet. Est-ce qu'il y a un effet de la situation conjugale des parents? On ne l'a pas regardé. Je ne suis pas capable de répondre à ça. Est-ce qu'il y a des traits communs aux enfants dans toutes les familles? J'aurais tendance à dire que non. Pendant le temps que j'avais là de réflexion, j'ai cherché et je vois même pas. C'est-à-dire que même quelque chose qui pourrait paraître comme un trait totalement structurant de l'enfance actuelle, qui est on ne fait pas travailler les enfants, quoi. Là. Même ça, en fait, non. Il y a des familles dans lesquelles on n'hésite pas à donner de l'argent aux enfants parce qu'ils ont rendu un petit service, parfois parce qu'ils ont fait un vrai travail dans l'entreprise familiale à 5 ans. Donc même ça, je peux même pas dire que voilà. Donc je n'en vois pas a priori de traits communs. L'effet du territoire, on ne l'a pas cherché. Étant donné les questions par lesquelles on a abordé la thématique, ça ne pouvait pas apparaître. C'est-à-dire que les lieux, on a demandé, dites-nous ce qui se passe quand vous faites des courses avec les enfants. Les lieux de courses peuvent être effectivement socialement différenciés, mais même nos familles rurales, elles vont dans des grandes surfaces. Donc, de fait, ça s'homogénéise. Et on leur a demandé aussi, est-ce que vous donnez de l'argent aux enfants? Enfin, est-ce que vos enfants ont de l'argent? Et si oui, comment ils le reçoivent? Qu'est-ce qu'ils en font? Ça aussi, c'est a priori peu variable en fonction du territoire. Donc, il y a peut-être un effet territoire, mais on ne l'a pas cherché. Du coup, on ne l'a pas trouvé. Est-ce qu'il y en a des jeunes qui veulent devenir milliardaires? Ça renvoie en fait à la question de plus spécifiquement de nos enfants de riches. Alors, nos enfants de riches, j'en ai parlé un petit peu, mais j'ai pas parlé des plus riches des riches, parce que vous avez vu, j'ai triché, hein, j'ai parlé du pôle culturel, de l'espace social, du pôle économique, et j'ai pas parlé du centre du tout. Et notamment, j'ai pas parlé de ceux qui sont en haut au centre, c'est-à-dire qui ont beaucoup de capital économique et beaucoup de capital culturel et de l'ancienneté dans la bourgeoisie. Cela, j'en ai pas parlé. On en a quelques-uns. Donc je vais dire que c'est eux les enfants de riches et j'en ai pas parlé parce qu'on est on a été assez désemparés pour analyser ce qui se passait dans ces familles dans la mesure où ce qu'on voyait a priori c'est qu'il ne se passait rien. Et alors évidemment moi j'avais pas très envie de conclure qu'il ne se passe rien parce que je suis persuadée qu'il se passe des choses, mais en tout cas rien qui se voit. Et donc dans ces familles on ne donne pas d'argent aux enfants, on ne parle pas d'argent aux enfants et on ne parle pas d'argent en présence des enfants. Donc toutes les choses que j'ai énumérées ici, en fait on avait rien. Alors néanmoins alors il me semble qu'on peut analyser sur pourquoi est-ce qu'on met autant les enfants à distance de l'argent que ça. Et alors, c'est que ça n'est que des pistes, mais on ne donne pas d'argent aux enfants, à mon avis, enfin, sauf pour la petite souris. Mais voilà. Alors, à mon avis, ça a peut-être quelque chose à voir avec une caractéristique de la socialisation enfantine dans les classes supérieures, qui est le côté contrôlant, qui peut être évidemment un contrôle doux, un contrôle euphémisé, un contrôle qui ne se voit pas, mais néanmoins, on contrôle toutes les dimensions de la vie des enfants. Enfin, c'est l'article de Chambordon sur la délinquance juvénile. Ça se retrouve dans, voilà, nous dans notre enquête, c'est vraiment très très clair, dans les classes supérieures, on contrôle toutes les dimensions de la vie des enfants. Et je me dis que notamment l'argent, ne pas leur donner d'argent, c'est garder la main sur ce qu'ils vont acheter, c'est ne pas leur donner, c'est garder le pouvoir sur la consommation des enfants. Et on ne leur parle pas d'argent, et on ne parle pas d'argent en présence des enfants, et ça mériterait évidemment d'être beaucoup plus développé et travaillé, mais ça a sans doute, je pense, quelque chose à voir avec la posture bourgeoise de discrétion, enfin, à préciser bien sûr, mais une discrétion par rapport à l'argent, c'est quelque chose dont on ne parle pas publiquement et encore moins aux enfants. Avec plein de précautions sur ce que je dis ici, ça mériterait d'être affiné. J'en ai déjà dit trop, j'arrête là. J'en ai déjà dit trop.
Oh, merci. Merci beaucoup pour ces questions. Pourquoi eux et pas d'autres? Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a que des hypothèses, mais on a l'impression qu'il se joue peut-être quelque chose au niveau du rang dans la fratrie. Et ça rejoint peut-être un peu des discussions qu'on avait hier sur la tension entre désintéressement et intéressement. Et on se demande si, dans certaines familles populaires auprès desquelles on a enquêté, il n'y aurait pas quelque chose pour les aînés de l'apprentissage d'un désintéressement qui les rend particulièrement susceptibles, du coup, de s'approcher d'une unité économique locale qui les exploite, pour le dire très vite, et qui, du coup, les fait monter parce qu'ils sont très dociles avec ces dispositions. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse par la suite. Et du coup, ça ramène à votre question sur c'est quoi une disposition. Donc, j'espère qu'on ne l'a pas trop tourné dans le sens... En tout cas, c'est vraiment peut-être... Autant l'idée de savoir-faire que d'aspiration et de pourquoi ils sont attirés, en fait, et pourquoi ils s'investissent autant, alors que c'est un univers auquel ils sont a priori assez étrangers. Et du coup, qu'est-ce que... Alors, je vais laisser certaines questions à Julie. Et qu'est-ce que... Les plus durs, bien sûr. qu'est-ce que ça leur fait quel type de vie ils ont? Alors, on n'a pas pu encore systématiser le fait d'aller dans leur propre résidence principale. On l'a fait deux fois, pas pour tout le monde. Plus de deux fois. Mais ce qu'on tire à partir de ces premiers éléments et de ces entretiens, c'est que déjà, ça dépend vachement du cycle de vie, du moment auquel l'investissement appartient. Donc, il y en a beaucoup qui, en fait, sont endettés pour encore 20 ans. Pour eux, les loyers servent d'abord à rembourser le prêt, ce qui montre un rapport au prêt qui est du coup assez... assez intéressant pour cette fraction de l'espace social. Pour ceux qui ont fini de rembourser, ce qu'on a eu comme élément, c'était par exemple que ça pouvait permettre de payer les études privées, à la fois au lycée et puis les études supérieures des enfants dans le pôle privé. Ce qui m'amène du coup à la question sur les effets sur l'entourage et notamment sur les enfants. Pour l'instant, les éléments qu'on a montrent que ça, c'est pas forcément une transmission qui sera très assurée et qui assure la reproduction du statut de bailleur à travers les générations. Soit parce qu'il y a des cas, mais c'est vrai qu'il y a aussi des cas où ça marche pas et où René Maison, dont on a beaucoup parlé, par exemple, j'en ferai avec ses enfants, et dans une stratégie de se débarrasser de l'ensemble de ses biens de manière à profiter pour le coup de son argent jusqu'au bout parce qu'il a... Il y a une rupture, en fait, qui fait que ces logiques d'héritage sont brisées et du coup, il n'y a pas nécessairement ce truc de transmission qui marche.
Mais il aspirait à ça à la base.
Donc, ça... Et puis, on peut aussi dire qu'à Monet-en-Loire, ce n'est pas un contexte immobilier. Ils font des paris quand même. Ils font le pari d'acquérir tous ces biens. Donc, il y a eu l'arrivée d'un moyen de transport dont je vais taire le nom pour pas qu'on reconnaisse où c'est, mais en gros, il y a l'arrivée d'un moyen de transport où on a pu espérer que ça allait faire monter les prix de l'immobilier. C'est pas encore ça, donc ils attendent un peu la montée des prix de l'immobilier. Ça peut aussi s'avérer, et Julie dira peut-être un mot sur les trajectoires de sortie, c'est pas forcément toujours très rentable, quoi. Donc, un des enjeux du travail, c'est de voir est-ce que leur statut résidentiel en vient comment ça s'articule avec le statut social et est-ce que ça peut leur faire connaître des formes d'ascension qu'ils connaissent pas par la profession, mais là qu'ils connaîtraient par l'immobilier. On observe un peu ça, à cela près que 30 apparts là, c'est pas 30 apparts dans Paris, quoi. C'est juste, ça vous correspond peut-être à trois maisons nantaises qui ont été découpées en des tout petits studios qui sont pour certains assez dégradés. Mais du coup, pour l'instant, on n'a pas encore systématisé la collecte de la valeur du patrimoine. Et c'est quelque chose qu'on pourra aussi voir, je pense, dans l'enquête logement, en comparant les valeurs foncières et tout. Mais clairement, ça va être un des trucs qu'on va travailler, de voir dans quelle mesure ça change leur statut social. Merci.
Pour trouver des bailleurs qui sont plantés. On ne va pas dire qu'ils sont plantés. Il y en a un qui a arrêté l'activité, justement celui dont ses patrons lui devaient 40 000 euros. Justement, en fait, la vente de l'appartement, enfin des appartements, parce qu'il y en avait trois, mais que un qui était habitable, a permis en fait de pallier au manque en fait des honoraires qu'il a pas perçu et d'entamer y a ça. Après, c'est vrai que dans le mode de recrutement en fait de nos enquêtés, on passe par le bon coin, donc des gens qui sont en train de louer, et c'est vrai que en fait j'y avais pas pensé plus que ça, moi, d'aller voir des gens qui justement ont arrêté ou qui sont plantés complètement. Mais ça, c'est une piste à creuser.
Peut-être par une Peut-être par immersion. Enfin, là, on commence par, voilà, on commence par le bon coin parce que c'est plus facile, mais l'idée, c'est de revenir fréquemment de manière à accéder à ces profils de bailleurs qui sortent et puis à ceux qui ne passent pas par le bon coin parce qu'ils ont peut-être des biens moins classiques à proposer que. Voilà.
Pour la question du rapport à la politique, globalement, je pense qu'ils sont majoritairement de droite parce qu'il y a énormément d'indépendants. Enfin, énormément. La majorité sont quand même indépendants. On a aussi, y en a un qui est un expert comptable. Mais c'est des gens globalement de droite, mais avec quand même un rapport assez. Enfin. Ils qualifient leur enquêté de enfin la plupart, enfin pas leur enquêté, leur locataire, de cassos. Mais en fait, enfin parce que eux sont dans une logique de méritocratie un petit peu, on mérite, on travaille énormément, etc. Et eux, en fait, comme on l'a vu, vivent un peu sur le dos de la société. Mais il y a quand même un rapport très social, on va dire, enfin très d'empathie. Et de volonté aussi, enfin, de les aider, d'aide vraiment. Donc c'est pas des gens qui les méprisent non plus, quoi. Je sais pas si ça répond exactement à la question. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi comme question ? On a fait le tour, je crois. Les effets sur leur entourage, oui. Je voulais juste dire qu'il y avait quand même une aspiration à. Enfin, il y en a qui montent des SCI. Il y en a deux des enquêtés qui montent des SCI avec leurs enfants. Donc, il y a quand même cette volonté un petit peu de transmettre ce patrimoine et donc cette activité de location. Mais c'est pas non plus. Enfin, c'est pas un but en soi, quoi.
Merci. Merci pour vos présentations. J'aurais juste une petite question pour Margot et Julie. Ce que vous avez présenté, en fait, c'est très complémentaire avec les travaux que j'ai pu lire sur ce type de population périurbaine, plutôt peu dotée scolairement, etc. Je pensais notamment au travail de Dominique Pasquier, j'y pensais d'autant plus que vous faisiez référence au Bon Coin, qui son travail récent sur l'internet des familles modestes, où elle montre que c'est un site qui est quand même beaucoup utilisé par les populations modestes, enfin les familles modestes qu'elle étudie, c'est-à-dire populaires périurbaines. Je me demandais, vous évoquiez aussi comme elle trouve, à la fois sur les posts Facebook et dans ses entretiens, cette critique de la figure de l'assisté. Cassos, etc. Mais elle montre aussi qu'il y a un rejet des élites très très fort. Hein. Il y a cette espèce de position d'entre-deux, de monde triangulaire, les eux et les nous. Mais les eux, c'est d'abord les élites politiques qui s'en mettent plein les poches à leur détriment. Et je me demandais si vous aviez des éléments sur ce point-là, notamment parce qu'ils sont amenés, vous l'évoquiez, à fréquenter des élites locales. Et voir s'il pouvait quand même y avoir ce discours qu'on pouvait subodorer dans une petite remarque que vous aviez faite à un moment sur les lois. Enfin, voilà, il y avait des choses, donc je voulais savoir s'il y avait plus d'éléments.
Bonjour. Alors, merci pour toutes vos présentations très intéressantes. J'aurais quelques petites questions pour Martine. Je trouve que c'est un sujet vraiment très intéressant. Ça m'a fait penser aux travaux de Julie Pagis sur la socialisation politique des enfants. Et j'ai entendu la question par rapport à votre thématique, la question du territoire qui a été posée. Ça m'a aussi fait penser aux travaux de Clément Rivière sur la façon dont les parents, en fonction des classes sociales, socialisent leurs enfants à la circulation dans l'espace urbain, et notamment cette différence entre les classes populaires qui vont avoir un rapport pour essayer d'apporter à leurs enfants un peu plus d'autonomie dans la circulation de l'espace urbain, et des classes moyennes et supérieures qui vont justement planifier, exactement comme le rapport à l'argent, leur circulation dans l'espace urbain. Et ça c'était vraiment intéressant. Notamment le mettre, je pense que ça peut être intéressant, peut-être pourquoi pas de le mettre en perspective, les deux choses, d'autant plus que ces enfants, par exemple, quand on leur dit voilà, tu vas aller chercher le pain à la boulangerie au coin de la rue, il y a cette double dimension entre rapport à l'argent et la circulation dans l'espace urbain. J'avais une question aussi un peu plus méthodologique sur savoir si vous avez pu, alors je sais que ça a des implications très fortes méthodologiquement parlant, d'aller parler ou de faire des petits entretiens avec des enfants, ce qu'ils peuvent vous dire, parce que ce qu'on voit en fait dans votre présentation, c'est que les expériences des enfants, en fait, c'est les parents qui parlent des expériences des enfants, de leurs pratiques, notamment le petit exemple avec le cochon, c'est le relais d'un parent, donc voilà, c'était juste ça. Merci.
Merci beaucoup pour à la fois la remarque et la référence qu'on va aller regarder de près parce que ouais, c'est vraiment un aspect qui pourra sûrement beaucoup nous aider. On en parlait avec Julien, on ne repère pas pour l'instant ce type de rejet des politiques. Au-delà de la distanciation des figures d'héritier, à propos de René Maison, ce qui pourrait peut-être plaider dans le sens de ce que soulignait Sylvain Bardet sur peut-être qu'en fait ils ont des trajectoires d'ascension qui font que ils s'assimilent, enfin ils s'assimilent pas forcément, ils s'assimilent en tout cas à cette élite économique locale de par leur trajectoire immobilière. Par contre, je pense qu'il y a des choses en rapport à l'État et en particulier à certaines figures politiques qui seraient à creuser. On a des extraits sur, par exemple, Cécile Duflot, qui situe aussi ses bailleurs dans l'espace politique. Voilà.
Alors, sur la question de la méthode, dans cette enquête collective, on avait des entretiens avec les enfants, mais qui avaient un statut très particulier, qui étaient des entretiens courts et qui avaient uniquement, principalement pour fonction, de nous donner des indications sur les dispositions langagières des enfants. C'était vraiment ça leur but uniquement, puisque une grosse partie de l'enquête portait sur la socialisation langagière. Donc les entretiens avec les enfants ont été faits uniquement dans ce but. Donc ce n'était pas des entretiens avec le même statut que les autres, visant à faire décrire des pratiques. Donc on peut dire qu'on n'a pas d'entretien avec les enfants. J'ai le sentiment, mais tu me diras si j'interprète mal ta remarque, qu'il y a un implicite dans cette question de pour étudier, que j'ai souvent eu, pour étudier la socialisation enfantine, il faut avoir des entretiens avec les enfants. J'ai l'impression qu'il y a un implicite dans cette question, dans cette remarque, qui est que les parents, disons, ne seraient pas les mieux placés pour décrire à la fois le travail de socialisation et la manière dont les enfants vivent, perçoivent, s'approprient ce travail de socialisation. Et implicite qui va avec, les enfants seraient mieux placés que leurs parents, puisque ça les concerne, pour décrire ce qu'ils en pensent, comment ils le vivent, voire pour décrire même le dispositif de socialisation dont ils sont l'objet. Alors, si c'est bien ça l'implicite, il me semble que c'est implicite. Enfin, du coup, quand je le reformule comme ça, je voyais bien où je veux en venir. De manière un peu provocatrice, non, les enfants ne sont pas mieux placés que leurs parents pour décrire les expériences qu'ils vivent, même pour décrire l'expérience qu'ils vivent. D'abord, parce qu'en entretien, les enfants, enfin, moi j'ai surtout fait des entretiens dans d'autres enquêtes avec des enfants plus âgés, mais même à autour de 10 ans, les entretiens avec les enfants sont souvent laborieux, beaucoup d'enfants parlent peu, beaucoup d'enfants sont très confus. Alors, c'est vrai aussi dans des entretiens avec des adultes, mais là s'ajoutent les difficultés langagières spécifiques chez des enfants même un peu grands. Donc ça, c'est une première chose. Et au-delà même, enfin à côté de ça, de mon point de vue méthodologique, les enfants n'ont pas été traités tellement différemment des adultes, au sens où en entretien, eux aussi ne disent pas la vérité de leur pratique, en tout cas pas forcément. Ils ne sont pas forcément de bons observateurs d'eux-mêmes, ils peuvent oublier des choses, eux aussi sont dans la présentation de soi, eux aussi ont un discours qui est affecté par des effets de légitimité. Et donc, voilà, donc les enfants ne sont pas, a priori, pour moi, mieux placés que des adultes pour décrire ce qu'ils vivent et la manière dont ils ont été socialisés. En fait, si on veut faire du bon travail, pour moi, l'enjeu, il est de pouvoir, de donner les moyens, de pouvoir objectiver les pratiques des enfants, les pratiques des adultes, les perceptions des enfants. Il faut pouvoir objectiver ça, et ça passe par un travail sur le travail d'entretien, ce que vous savez aussi bien que moi, comment est-ce qu'on construit la grille d'entretien, quelles questions on pose, etc. Ça passe par ça. Et ça avec des adultes, si on le fait, on a les moyens dans les entretiens ensuite d'objectiver, pas juste de dire... le parent a le sentiment que son enfant il s'est passé ça. Non, on a des éléments pour pouvoir dire en pratique il s'est effectivement passé ci et ça. Donc ça passe par le travail d'objectivation, et ça passe par, alors je sais pas si le mot triangulation est le bon ici, mais par le fait de pouvoir disposer de plusieurs informations sur un même domaine de pratique. Et là on avait un truc pas mal dans cette enquête, c'est qu'on avait plusieurs entretiens avec les parents qui étaient répétés, on les voyait à plusieurs reprises dans le temps. Donc on pouvait revenir éventuellement sur des des choses qu'ils nous avaient dites, où on voyait bien qu'ils éludaient un peu, qu'ils n'avaient pas envie d'en parler. Donc on avait le temps d'y réfléchir et de revenir, de reposer la question différemment. Donc on avait vraiment, par ce dispositif d'entretien répété avec les parents, des moyens de contrôler avec tous les guillemets les effets de la situation d'entretien. On avait des entretiens avec d'autres adultes. Et alors sur l'argent, ça comptait pas tellement, enfin c'était pas clé, mais sur un certain nombre de pratiques, d'avoir aussi des entretiens avec l'institut, avec une autre personne de l'entourage, ça permettait souvent de préciser beaucoup les choses, de voir que là, ce que disait le parent, en fait, il fallait l'interpréter comme ça. Ça permettait d'avoir quelque chose d'assez solide en termes d'objectivation, grâce au fait qu'on avait plusieurs entretiens, mais avec des adultes, voilà. Bon, j'ai encore un peu de temps, ou non, j'en arrête. Non, après, c'est juste pour dire que je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas faire d'entretien avec des enfants quand on travaille sur la socialisation enfantine. Bien sûr que non. Je pense juste que c'est un piège de se dire je travaille sur la socialisation enfantine, donc je vais interviewer des enfants. C'est un piège dans lequel moi je suis tombée des deux pieds quand j'ai commencé. Quand ma thèse portait sur des enfants, tout de suite, je me suis dit il faut aller interviewer des enfants. Et heureusement, j'avais aussi en tête il faut que j'interviewe des adultes. Heureusement que je ne me suis pas dit je vais juste aller voir des enfants et tout se passera bien. Et en fait, c'est potentiellement un piège parce que c'est très coûteux en temps. C'est très coûteux en temps pour négocier les entretiens, pour les faire, pour les transcrire, etc. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si on le fait, il faut savoir pourquoi on le fait et réfléchir à l'avance sur ce que ça peut apporter. Voilà.